Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde.
Mangoto yai, yai pate, kolo satyu.
Écoute les bruits du monde. Les bruits du monde par principe actif.
Par principe actif.
Once upon a time, there was a mirror. A big mirror. And this mirror stand in a forest. A big forest. Therefore, a lady comes and she derides the mirror. And every day she says the same thing. My magic mirror. Oh, it's the most beautiful girl in this land. And the mirror says, "Poof, my lady, you are the most beautiful girl in this land. Be quiet, be quiet, be quiet." But again, yes, again.
Le samedi 27 et le dimanche 28 janvier dernier, le Tangram vous proposait d'arrêter la course folle du temps et d'assister à la trilogie héroïque. Trois spectacles, à savoir Botte de Prince et Bigoudi, Pépé les petits cailloux et le Roi des rats, écrits et interprétés par Annabelle Sergent de la compagnie Loba. Retour sur ces deux jours où le temps s'est arrêté pour laisser place à la poésie et à l'enfant en chacun de nous.
À l'endroit, ça fait ça. Et pour ceux qui ne sauraient pas encore lire, si d'aventure il y en a parmi vous cet après-midi, J-E-A-N-N-E, point. Dans mon histoire, il y a une gamine qui s'appelle Jeanne. Jeanne est un peu comme toi et... peut-être toi aussi, enfin, en tout cas, elle va à l'école. Sauf le mercredi après-midi, sauf le samedi et dimanche, sauf pendant les vacances scolaires, et sauf, lorsqu'il neige si fort qu'il n'y a pas moyen de mettre le nez dehors. D'ailleurs, en ce lundi matin, de rentrée de janvier, il a tant enneigé durant les vacances de Noël cette année-là. Les routes sont bloquées par la neige. La cour de l'école est désertée. Ce matin-là, il n'y a pas classe. Oh, quel dommage! Même Monsieur Albert, le chauffeur de car, de ramassage scolaire, regarde par sa fenêtre son autocar jaune et noir recouvert de neige ce matin-là. Où il n'y a pas de classe. Oh, quel dommage. Monsieur Albert, le chauffeur du car de ramassage scolaire, il faut savoir que lui, il a horreur d'être enfermé chez lui et de tourner en rond dans sa maison. Ah non. Ce qu'il préfère, Monsieur Albert, c'est à la vente son autocar jaune et noir sillonner les routes. Oh oui, sillonner les routes. Et lorsque Monsieur Albert arrive tout en haut de la colline, là, au point qui jouxte l'horizon, il a même quelquefois l'impression que son autocar va... Mais il ne décolle jamais.
Donc, la compagnie Loba, je l'ai créée en 2001, donc elle a aujourd'hui 17 ans. C'est une compagnie qui, effectivement, a pour vocation de soutenir, en fait, ma recherche artistique et petit à petit qui s'est ouverte aussi à d'autres types de travaux et notamment, effectivement, ce qu'on appelle une politique culturelle d'ancrage territorial, c'est-à-dire, du coup, comment, avec la question, en fait, qui sous-tend, c'est Comment trouver l'articulation entre les créations qui sortent de la tête d'un artiste et puis la résonance avec les publics, parce que du coup on crée aussi pour les publics. Donc tout le travail en fait de la Loba, il est très cohérent, qu'il soit en fait en création ou dans des ateliers ou dans des actions qu'on peut mener. C'est vraiment comment on fait l'aller-retour entre les œuvres et les publics. Voilà.
C'est important de penser dès la création et avec une structure comme une compagnie, cette recherche, et en même temps d'aller tendre vers les publics. Justement, comment on tend la main concrètement? Ça passe par des ateliers, par des rencontres en bord de scène. Comment on fait ce travail tout simplement de ce qu'on appelle de la médiation culturelle entre la création et les comédiens, et puis le travail avec les publics? C'est pensé, j'imagine, dans ce que j'entends, de ce que vous me dites, dès la création d'un spectacle. Comment ça s'articule concrètement?
Alors, ça dépend des spectacles. Là, sur la trilogie héroïque, comme c'est des réécritures de contes, c'est pour le dernier, pour Le Roi des Rats, qui a été créé en 2015. J'ai vraiment souhaité avoir un travail avec des collégiens, notamment, pour savoir. La question était, quand j'arrive en classe avec la légende du joueur de flûte de Hamelin, qui donc Le Roi des Rats, dont est une réécriture, comment ça sonne aujourd'hui? Ça, c'est la question. Par exemple, sur la trilogie, je me suis toujours posé la question, comment on peut raconter ce type de conte aujourd'hui? Où ça sonne? Ça sonne, mais à quel endroit ça sonne? Et qu'est-ce que ça dit de l'enfance ou de la jeunesse aujourd'hui? Donc mon travail, moi, avec les publics, qu'ils soient des ateliers, des ateliers d'écriture, des ateliers de musique, des ateliers de graphisme, etc., ils me servent, en fait, dans la création, à percevoir à quel endroit le public reçoit ce que moi j'imagine. Sachant que, de toute façon, on n'écrit jamais pour un public. On écrit pour une idée d'un public, mais on n'écrit jamais pour un public réel. Sachant qu'en plus, dans ce genre d'écriture, moi j'écris pour des familles. En fait, j'écris pour du tout public à partir de 7 ou 8 ans sur la trilogie. Ça fait que j'écris d'entrée de jeu pour des publics pluriels. Les enfants viennent jamais seuls au spectacle. Donc je sais que je vais m'adresser aussi à des adultes. Donc mon écriture, elle est à la fois teintée de... Dans l'écriture, j'essaie de me rapprocher le plus de l'enfance, quelque chose de moi, de l'enfance, avec en même temps le regard d'adulte sur la question. C'est à cet endroit-là que les trois spectacles, je les considère vraiment comme du tout public à partir d'eux, c'est-à-dire qu'ils s'adressent aussi bien en fait aux enfants ou aux jeunes qu'aux adultes. Ça, voilà. Après, sur d'autres processus de création, là, je suis en train de monter un diptyque autour de la guerre et de l'exil. Et là, pour le coup, comme c'est un sujet qui est très engagé et qui part du réel, contrairement à la trilogie qui est une écriture de fiction, mais là, dans le diptyque du réel, pour le coup, le sujet étant engagé, le processus de création l'est aussi, et là, on est mouillé jusqu'au cou avec les publics, mais jusqu'au cou, quoi. C'est-à-dire qu'on est ces machines à laver, quoi. C'est vraiment un mix de rencontres entre des dramaturgies théâtrales et des publics sur la guerre et l'exil, jusqu'à travailler avec des primo-arrivants qu'on fuit la guerre et tout ça. Voilà. Donc, ça dépend des créations, en fait. Ça dépend vraiment des créations.
Vous parliez tout à l'heure de l'ancrage local. J'ai cru comprendre qu'il y avait un travail notamment avec la ville d'Angers, puisque c'est là où est originaire la compagnie, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous faites oui de la tête, donc ça va. Les infos sont à peu près correctes. Justement, comment ça se passe, le lien avec les collectivités, les partenaires institutionnels et notamment la ville d'Angers? J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la pépinière artistique. Je sais pas si c'était à votre initiative. Enfin voilà. Globalement, comment vous travaillez le lien partenarial avec les institutions, tout simplement?
Ben, en fait, effectivement, à Angers, la compagnie est implantée et on dirige un lieu qui s'appelle la pépinière artistique d'Avier. Alors, on est trois structures dans ce fameux PAD, le PAD. Nous, on a un projet spécifique, le PAD Loba, qui est en fait le projet d'accueil. On accueille des compagnies en résidence de création. Et l'idée étant que souvent, pour que des créations puissent vivre, en tout cas pour qu'elles puissent être creusées, les artistes ont besoin de temps, d'espace, évidemment d'argent pour créer, mais aussi de temps et d'espace. C'est ce qu'on a essayé de faire à Angers. C'est-à-dire on a un espace de travail, on accueille des compagnies pour venir travailler, on les héberge, etc. Et puis on fait des ouvertures publiques pour que leur début de travail puisse être vu. et ou faire des crash tests auprès de public pour voir si effectivement ce qu'ils ont imaginé, ça sonne ou ça sonne pas. Est-ce qu'il faut réorienter des choses? C'est très modeste en fait comme projet, mais et aussi très empirique. Mais ce que ça permet, c'est que des artistes ne soient pas assujettis à justement d'autres politiques culturelles. Il y a un espace de travail assez libre qui fait que dans la recherche, il y a cet espace de temps-là qui fait qu'après, quand ils vont travailler sur le stade supérieur, qui est le stade avec soit les théâtres, soit les collectivités, etc., ils ont déjà eu ce temps de recherche pour eux, voilà, qui est important. Moi, je travaille avec les collectivités depuis assez longtemps et j'ai eu la chance d'avoir au sein de la compagnie un conseil d'administration de gens assez chevronnés sur la question et qui m'ont toujours orientée sur les politiques culturelles. Donc, je ne suis pas une artiste perchée dans sa tour d'ivoire, en fait. Je peux l'être, mais aussi je peux vite en redescendre et avoir les deux pieds sur le plancher des vaches. Du coup, depuis quelques années, je renifle l'ADN des structures, ce que j'appelle l'ADN, qui est vraiment au-delà du projet, qui est l'identité. Chaque structure a une identité qui est soit liée à son histoire, soit liée à un projet très fort mis en place à un moment T. Et c'est ça que je cherche. Et je cherche comment travailler, comment moi, mon projet, il peut résonner avec l'ADN de la structure, que ce soit avec une collectivité ou un théâtre. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour inventer des nouvelles formes de collaboration et pas répéter des dispositifs en permanence. On utilise les dispositifs, mais on les renouvelle dans ce que la collaboration avec une collectivité ou un théâtre peut apporter à la fois au théâtre et à la fois à la compagnie dans la création ou la diffusion. C'est vraiment la recherche. Alors, ça prend beaucoup de temps de communication, mais c'est très, très nourrissant pour tout le monde.
C'est toute la difficulté entre des projets artistiques, vous parliez à un moment de ne pas être assujetti aux politiques culturelles, aux dispositifs notamment de financement, c'est la réalité économique pour que un spectacle puisse être produit à un moment. J'imagine que ça intègre aussi des choix, par exemple dans la musique, pour prendre un exemple un peu à côté, c'est souvent une question qu'on pose à des programmateurs d'une salle, je sais pas, celle d'Evreux ou n'importe quelle salle, voilà, des fois on trouverait ça intéressant que des big bands viennent jouer. Mais souvent on nous répond mais c'est quand même un peu cher de faire venir des musiciens de l'autre bout du monde, s'ils sont 20 tout de suite c'est un coût énorme. Est-ce que, et sans forcément parler de Loba, mais de la compagnie Loba, mais en général on est aussi dans cette réalité là dans le monde du théâtre, de devoir revoir par moment des projets à la baisse parce que trop de comédiens, par exemple, pour un projet très ambitieux, ça coûte évidemment très cher. Voilà, c'est j'imagine une réalité pour les compagnies à l'heure actuelle.
Bah, en tout cas, dans le secteur du jeune public, très clairement. Je pourrais pas parler des autres secteurs parce que je pense que c'est pas la réponse. Elle peut pas être oui ou non. Elle dépend vraiment de plein de paramètres qu'on maîtrise pas du tout et je m'avancerai pas trop sur le sujet. Mais il me semble que dans le secteur du jeune public, qui est en plein développement, hein, clairement en plein boom, la question du formatage, elle est clairement posée. Ça, je peux m'avancer sans souci sur là-dessus.
Et est-ce que ça veut dire qu'on va privilégier des seules en scène, des formes un peu plus petites, parce que question de moyens? Concrètement, c'est ça que ça veut dire?
Concrètement, ça veut dire qu'en fait, dans les moyens eux-mêmes de production, dès le démarrage, là, ça y est, en jeune public, le jeune public est rentré, peut être financé par des collectivités territoriales, la DRAC ou la région, les départements et la ville. Ça y est. Je veux dire, les dossiers sont reçus depuis peut-être 3 ans, au même titre que n'importe quel autre dossier de danse ou de théâtre pour adultes. Maintenant, donc c'est les moyens de production aussi qui déterminent en fait la création. Donc ça, c'est en pleine évolution. Ça, voilà. Après, c'est pas les mêmes du coup tous économies, c'est pas les mêmes secteurs économiques en fait que le théâtre adulte. Voilà. Donc je maîtrise pas assez le sujet du théâtre adulte pour m'avancer là-dessus.
Mais c'est toujours compliqué de se rendre compte. Moi, je suis toujours surpris de l'exigence qu'on a auprès des artistes et des compagnies, enfin voilà, des artistes en général, parce que nous, on parlait de dispositifs, de fonctionnement, de réalité, de coûts de production, etc. Ça touche aussi à la partie médiation culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes ne peuvent plus se contenter, et c'est valable aussi pour la musique, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, ne peuvent plus se contenter d'avoir juste une idée et un projet artistique. Il faut pouvoir communiquer dessus, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle la médiation culturelle, pouvoir l'expliquer, le détailler, le remettre en question, le décortiquer auprès du ou des publics à qui éventuellement il s'adresse, et puis envisager aussi toute la partie économique, fonctionnement, etc. Je ne sais pas si ça a toujours été aussi complexe pour les artistes. Ça me paraît quand même parfois très difficile le métier d'artiste. Et on parle malheureusement quelque part bien d'un métier. Oui. Je ne sais pas quel est votre regard là-dessus. Il n'y a pas forcément de questions dans ce que je vous amène au bout là.
On est pluriel dedans.
Ça nécessite ça.
Alors voilà, on jongle sans cesse entre la création, qui est sans doute quelque chose qui est très nébuleux. Je suis allée voir We Love Zahrab à Louviers hier, et du coup, le chorégraphe parlait de quelque chose qui est très juste. C'est-à-dire que, en fait, souvent, pour pouvoir faire une demande de dossier, demande de subvention auprès des collectivités, il faut qu'on nomme un projet très précis. Or, et il a dit quelque chose qui est très très juste hier, c'est-à-dire que souvent la création, elle est collée à son créateur, mais elle ne lui est pas encore révélée, et c'est le créateur lui-même qui doit se mettre en mesure de disponibilité pour voir des choses qui le dépassent. Et ça, on ne peut le faire qu'en travail, c'est-à-dire que c'est impossible à poser sur un dossier. Moi, j'ai la sensation, par exemple, je suis en train de créer un spectacle, j'ai la sensation que ce que j'avais, des toutes petites idées, intuitions qui n'ont l'air de rien, c'est un noyau atomique pour faire une créa, et si moi j'ai pas la disponibilité de l'entendre, ça peut attendre très longtemps, ce noyau atomique, jusqu'à ce qu'à un moment il me fasse hey, coucou, celui-là, ça fait 6 mois en fait que j'existe, mais tu m'as toujours pas vu. Je veux dire, pour moi la création par exemple, c'est ça, c'est-à-dire c'est pour ça que je dis que les artistes, ils ont besoin de temps et d'espace aussi, d'espace pour recherche, parce que c'est pas intellectuel. On le rend intelligible sur des dossiers, donc ça nous demande d'avoir deux cerveaux, un cerveau qui est pour moi, en tout cas, très primaire et très instinctif, très intuitif. Et puis, un autre cerveau qui doit rendre tout ça intelligible. Alors, du coup, on a effectivement besoin d'embaucher des gens très compétents qui sont capables de nous expliciter et d'expliciter pour les collectivités ce que nous, en tant qu'artistes, on est bien foutu de faire. On essaie de décrire intelligemment, mais souvent, on comprend après coup. On comprend après coup, et tant mieux, parce que ça veut dire que c'est pas de nous dont ça parle, mais que ça nous a, le sujet nous a dépassé ou la forme nous a dépassé, et alors là, pour le coup, je crois que c'est ça la création.
Pour la seconde fois dans la nuit, sans trop savoir pourquoi, Poussé secoue alors les trois teignes, qui secoue les jumeaux, qui secoue l'aîné.
Venez, venez les frangins, il faut pas rester ici. Allez, on s'en va, venez.
À peine ont-ils touché la poignée de la porte que les 6 petites œgresses se réveillent. Elles sont à l'équerre dans le lit, elles ont les yeux rouges, les dents qui bavent et se mettent à hurler. On a beau être une ogresse, on a beau être à l'autre bout de la forêt, à l'appel de ses filles, on n'en a pas moins un cœur de mère. Ça, c'est l'ogresse qui traverse la forêt.
Maman ! Baillonnez les petites ogresses ! Baillonnez-les !
Ça, c'est l'ogresse qui entre dans sa maison et monte les escaliers. Crème fraîche ici. Allez, bande de morveux, venez donc là. Non, sautez par la fenêtre. Poussez Juliette, l'aîné, les jumeaux, les trois teignes, les petites ogresses baillonnées et ligotées. Courir de branche en branche, courir et dans la forêt, s'enfuir, ribambelle d'enfants en fuite. Mais à la fenêtre, l'ogresse leur dit: attendez, morveux, que je chausse mes bottes de 7 pieux. Pendant que l'ogresse enfile ses bottes de 7 lieues, les enfants sont à l'avant de l'avion Airco DH4. Poussé est aux commandes. À ses côtés, Juliette. Derrière, le grand. Dans le moteur, les jumeaux. Clé de 12, clé de 8, donne-moi la vieille tête de Delco de la Simca. Sur le toit de l'avion trônent les trois teignes. Ils maintiennent les petites ogresses baillonnées et ligotées.
Poussé, écroule-toi! On n'a pas intérêt de se faire choper!
Le petit coucou, Toutou,
Juliette, c'est quoi cet avion?
Brane ballon de ci, de là. Le petit coucou finit par s'envoler, prendre de la hauteur, décoller avec toute la marmaille à bord et avec les enfants. Mais dans un virage, les petites ogresses, bâillonnées et ligotées à l'arrière, elles se déploient comme une bannière publicitaire pour saucisson. Et dans les airs, elles se mettent à hurler.
Chérie, maman vient vous chercher.
Et toi, maudite Juliette,
tu vas me le payer.
Les bruits du monde, par principe actif.
J'ai presque l'impression d'avoir comme un Frankenstein, en fait. C'est-à-dire que l'auteur crée quelque chose et puis après la créature vit d'elle-même. Il y a un peu cet aspect-là.
Ben moi, j'ai un rapport comme ça avec mes spectacles. Alors, Botte de Prince et Bigoudi, par exemple, que vous allez voir samedi. Alors, c'était un spectacle que j'ai créé en 2005. Je voulais réécrire Blanche-Neige. Donc, j'avais fait plein un boulot de recherche incroyable, etc., sur la symbolique, machin. Et puis, j'ai créé un autre spectacle à partir de cette source qui s'appelait Vagabonde, qui, lui, a très peu tourné. Et dans Vagabonde, c'était hyper épuré, etc. Et comme le chorégraphe avec qui je travaillais, il m'avait interdit plein de choses. Moi, je suis plutôt une nature un peu explosive. Enfin, à l'époque, je l'étais, il y a 12 ans. Eh ben, j'ai mis dans Botte de Prince et Bigoudi tout ce que j'avais pas le droit de mettre dans Vagabonde. Et au final, le spectacle, je l'ai créé en 3 heures entre Angers et Lille, dans le train. Donc, il m'a complètement dépassée. Et après, bah, c'était tout chou. J'arrivais sur scène. C'était un peu bon. J'étais plus jeune et un peu. J'avais un peu les deux doigts dans la prise, quoi. Fallait être un peu tête brûlée pour faire ça. Pépé les petits cailloux, le spectacle d'après, pour moi, c'est un monstre. Je l'ai toujours considéré comme un monstre à dompter. Donc, quand je rentre sur scène, c'est la bataille, quoi. Je bataille, mais je bataille avec une jubilation incroyable. Il est hyper rock'n'roll, le spectacle. Ça finit en concert de rock quasi. Et pour moi, j'ai un rapport monstrueux, ouais. C'est-à-dire qu'il respire et moi, il faut que j'ai un rapport d'arène. Je rentre dans une arène quand je vais jouer Pépé. Et s'il est plus puissant que moi, je perds. Et le roi des rats, j'ai un rapport de samouraï avec le spectacle. C'est-à-dire que je sais que le moindre des... C'est vraiment... Mais c'est mon état d'artiste, en fait, qui a évolué sur 10 ans. Mon état de jeu en tant qu'interprète et mon état humain. C'est-à-dire que j'ai pris 10 ans, je suis passée de 32 à 42 ans. Et j'ai réellement, pour chaque spectacle, il a à la fois une couleur, mais il est aussi pour moi un organisme vivant. Et il m'oblige en tant qu'interprète à me mettre... c'est pas moi qui joue... Si, évidemment, c'est moi qui joue un spectacle, mais le spectacle est une partition. Et moi, en tant qu'interprète, mon travail est de me mettre à l'endroit très juste pour porter chacune des partitions. Parce que chaque partition peut me dépasser si elle veut. Ce qui s'appelle la mise en scène, en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un rapport un peu double et moi j'ai un grand plaisir en fait. Alors ça peut paraître un peu barjot, mais je crois que quand on monte sur scène, c'est pas pour être raisonnable. Moi la pluralité m'a jamais fait peur, j'interprète dans la trilogie, il y a 46 pages de texte et 50 personnages. Et cette pluralité-là m'intéresse fortement parce que je pense qu'à l'intérieur, on peut être dans plein d'endroits. Si la colonne vertébrale est stable, ça ne gêne pas d'avoir plusieurs identités.
Donc vous passez d'un personnage à un autre, c'est ça que ça veut dire? Comment on fait cette gymnastique-là?
En fait, je suis conteuse. La base, c'est vraiment... je raconte les histoires, sauf que je fais intervenir plein de personnages. Donc en 2 secondes, je parle, hop, je reviens à la conteuse, paf, j'en refais intervenir un, j'en fais dialoguer deux. Donc c'est une espèce de gym... Et c'est comme un skieur qui fait une descente en piste de ski, il faut être bien concentré.
Et alors du coup, vous me rectifiez si je me trompe, c'est-à-dire que dans ces spectacles-là, il y a le narrateur, le conteur, voilà, en l'occurrence la conteuse, au centre, et puis en fonction des directions du récit, de l'histoire, c'est tel ou tel personnage qui intervient, et on revient à chaque fois au centre, autour du conteur. Et j'essaye de voir un peu ce que c'est. Peut-être que l'image n'est pas bonne. Je ne sais pas. Je vous vois dubitative.
Pas au centre de la scène, toujours.
Pas au centre de la scène.
Et non, puisque moi...
Au centre du récit, peut-être.
Oui, ouais. Sachant que petit à petit, il y a toujours un jeu. Est-ce que le personnage mange le narrateur ou le narrateur a le dessus? Et en général, dans mon écriture, c'est le plateau qui a le dessus. C'est-à-dire que tout le monde se fait manger, c'est le plateau qui gagne. J'aime beaucoup ça, cette idée que la scène elle-même... La particularité de ça, c'est qu'effectivement, mon travail à la base, je suis une conteuse, mais j'ai aussi un rapport de danseuse, en fait. Donc les trois spectacles sont des seuls en scène plateau nu. Et l'écriture, au fur et à mesure de ces 10 ans d'écriture, je prends vraiment en compte l'espace. Et pour moi, l'espace de la scène est un partenaire de jeu. Et donc, je me joue à la fois de la narration, je me joue des personnages et je me joue de l'espace et de la musique et de la lumière. Avec l'objectif qu'étant seul en scène, ce que je raconte induit des images mentales dans la tête des gens. Ils se font un film, en fait, ou un dessin animé, c'est eux qui choisissent l'endroit d'où ils regardent. Et que quand on rallume le plateau, ils aient l'impression d'avoir vu une forêt, une simca vert-pomme. Puis en fait, il n'y a rien. L'objectif, c'est que l'imaginaire dépasse le réel de la scène. Ça, c'est l'écriture. Voilà. Donc, peu importe le médium pour y arriver.
On est rentré très concrètement dans cette trilogie héroïque, mais c'est bien, Annabelle, merci de perturber l'ordre de mes questions, je vous remercie. Juste pour resituer, même si vous l'avez abordé, cette trilogie, donc on rappelle Bottes de Prince et Bigoudi, libre interprétation, réécriture de Blanche-Neige, je sais pas comment quel mot vous avez envie de choisir. Pépé, les petits cailloux, ce serait le petit Pousset. Le roi des rats, le joueur de flûte d'Amelin, peut-être le moins connu du grand public des trois contes. Des grands récits qui traversent l'enfance, c'est ce qu'on perçoit, notamment ce qu'on peut lire sur les internets ou aussi de ce que vous nous avez renvoyé depuis le départ de cet échange. D'ailleurs, pourquoi ce sont des grands récits fondateurs de l'enfance? On sait que Blanche-Neige et le petit Pousset qui sont peut-être plus connus, on les a tous lus quand on était plus jeune, mais qu'est-ce qui fait d'eux des grands récits de notre culture, de notre monde, et qu'est-ce qu'ils en disent justement sur notre monde, notre enfance, notre culture tout simplement?
Effectivement, alors Blanche-Neige qui est, donc Bottes de Prince et Bigoudi est une réécriture de Blanche-Neige. Pépé les petits cailloux, une réécriture du petit Pousset, eux sont des contes. Les contes, en fait, portent en eux... En fait, un conte parle d'une initiation. Comment on passe de l'enfance à l'adolescence pour arriver à la fin de l'adolescence, l'âge adulte? Ça parle de cette métamorphose. Le roi des rats, donc, qui est une réécriture du joueur de flûte de Hamelin, lui est une légende, ce qui est très très différent. C'est pas du tout la même structure de récit. Un conte, ça parle de l'initiation d'un individu. Comment on passe de l'enfance à l'âge adulte? Et donc de cette violence-là, des peurs à affronter, des métamorphoses à opérer en soi, des forces et des faiblesses à trouver, ça parle de ça. Et quand même, majoritairement, les contes portent en eux une violence sourde qui est la nôtre, en fait, qui sont nos pulsions, quoi, qui sont complètement recouvertes par les images du conte. Mais qui sont, c'est pour ça que ça traverse les histoires et ça traverse les siècles, c'est que ça parle de ce que l'on porte tous, en fait, comment on est obligé d'abandonner un état pour accéder à un autre. Voilà.
La mue du serpent, ou de l'être humain.
Voilà.
Et qui se passe avec une forme de violence, c'est ce que vous nous dites.
Bah, tous les contes, ils sont... Vous prenez l'ogre qui égorge ses filles, on est quand même en plein thriller, quoi.
Ouais.
Voilà, ou de la sorcière dans Blanche-Neige qui lui fait bouffer une pomme empoisonnée, c'est d'une violence inouïe, quoi. Il y a énormément de choses. Alors, je sais que souvent, ça effraie les parents. Souvent, m'ont dit, par exemple, pour le petit Pousset, oh là là, moi, je ne raconte surtout pas ce genre d'affaires à mes enfants. Je ne peux pas raconter à mes enfants des parents qui abandonnent. Moi, je crois que dans les contes, en fait, il faut pas les prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, les spectacles sont des organismes vivants. Eh ben, les contes aussi, c'est bien plus malin que ça en a l'air. Par exemple, j'en ai pour preuve, dans le petit Pousset, il serait quand même bien igo, les Poussets, de se faire abandonner 2 fois par la même technique. Sachant qu'on dit d'entrée de jeu que le Pousset est malin. Donc, la question est, la deuxième fois, c'est quoi? Pourquoi ils y retournent alors qu'ils savent ce qui leur arrive? Ils sont quand même pas idiots à ce point-là, quoi. Hein? Donc, la question, elle n'est pas des parents qui abandonnent les enfants, mais elle est Est-ce que c'est pas nécessaire? Et est-ce qu'ils n'en sont pas conscients eux-mêmes, les enfants, que quelque chose doit s'abandonner et qu'ils doivent passer à autre chose? Et là, si on part là-dessus, alors ça change tout. Et moi, j'ai tout réécrit Pépé avec ça, par exemple, avec cette idée de pourquoi il y a la récurrence? Pourquoi deux fois? Pourquoi ils pourraient se contenter de l'abandonner une fois? Enfin, je veux dire, le conte, c'était la même, sauf que non, c'est deux fois. La première fois, il revient avec la caillou, la seconde, les miettes de pain. Et il ne peut pas revenir. Alors, s'il y a eu les deux fois, c'est qu'il y a anguille sous roche. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, les contes sont quand même diablement efficaces. Il n'y a rien qui ne sert à rien dans une histoire. Voilà. Dans Blanche-Neige, ce qui est génial, si vous regardez le Walt Disney de 1933, il est monstrueusement génial. Moi, je me suis enfermée un soir chez moi avec mon petit cahier pour prendre des notes et je flippais. Il est d'enfer, ce dessin animé. Regardez-le et regardez le costume de la reine et celui de Blanche-Neige. Les couleurs sont inversées. Il y en a une qui a du bleu en haut, du jaune en bas, et l'autre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on parle de la même personne. Symboliquement, ça veut dire ça. C'est très, très fort.
Et la dualité qu'il y a entre chacun de nous, chacun de nous.
La dualité qu'il y a en chacun de nous. C'est pour ça que je parlais de violence. Et qui gagne, en fait? C'est quelle part gagne? Est-ce que c'est la part d'un narcissisme effroyable ou est-ce que c'est la part de l'être? Ça parle de ça, Blanche-Neige. Ça parle de l'être ou de l'image? Ça parle de ça, au fond. Comment une jeune fille se construit? Dans l'être ou dans l'image? C'est pour ça qu'elle dort si longtemps, parce qu'il faut qu'elle quitte le regard. Il faut qu'elle plonge en elle-même, en fait. Et quitte l'image. Et c'est un autre qui la lui révèle. Ça parle de l'altérité hyper fort, quoi. Donc, on peut être sur des trucs hyper basiques, mais on peut aussi, si on considère les contes comme, en fait, des... À l'intérieur de chaque conte, il y a effectivement plein de personnages, mais c'est tous une partie du héros. Et donc, on ne parle que de la psyché des... La nôtre, voilà. Donc le roi des rats, lui, par exemple, par contre, le joueur de flûte de Hamelin, c'est une légende. Et une légende, ça ne parle pas de la construction d'un individu, ça parle d'un état de fait social. Et il se trouve que dans une légende, sa particularité, c'est qu'en fait, quelque chose est vrai et que la légende elle-même est inscrite dans un espace géographique qui est réel. Et à Hamelin, le 26 juin 1284, 133 enfants ont réellement disparu. Et cette légende-là, on ne la retrouve que à Hamelin. Elle existe nulle part ailleurs, et vous irez dans la ville de Hamelin. La ville est marquée par ça. Donc après, il y a plein d'études scientifiques, etc., qui parlent de tout ça. Mais par exemple, la légende, c'est le dernier volet de la trilogie aussi, parce que c'est un volet plus social. Et clairement, la légende du joueur de flûte de Hamelin, toute l'histoire n'est écrite que du point de vue des adultes, la vieille histoire rapportée par les Grimm. Il n'y a pas un pet de place pour les enfants. Et on s'aperçoit qu'ils sont précieux quand ils ne sont plus là. Alors moi, je me suis dit, elle va raconter ça à du jeune public. Enfin, je veux dire, les pauvres, à part les traumatisés, je ne vois pas, quoi. Du coup, je me suis dit, moi, j'aime la liberté que... J'aime la fantaisie, les possibles qu'offre l'état d'enfance, en fait. J'aime bien cette... possibilité de se jouer du monde et de jouer avec. Je pense que l'enfance le porte fortement. Alors, avec Vincent Loiseau, avec qui j'ai coécrit Pépé et Petit Caillou et le Roi des Rats, on a décidé de tout renverser, non pas la structure symbolique, mais la structure dramaturgique. C'est-à-dire que le Roi des Rats est volontairement écrit à hauteur d'enfant. Et ce que la légende a fait à l'enfance au Moyen-Âge, nous, en contemporain, on a renversé. C'est-à-dire que tout n'est vu qu'à hauteur d'enfant, donc la place des adultes est reléguée à la marge. Et ça fait beaucoup rire les enfants. Et les adultes sont là, bah merde alors. Et du coup, on a renversé. Voilà, donc c'est vraiment vachement de recherche, en fait, pour en arriver à faire ces choix-là, qui sont des choix aussi, pour moi, politiques. Voilà. Alors, après, les gens le voient ou le voient pas, mais je sais que ça fait la force symbolique du récit, quoi, et du spectacle.
Tremblez, bande de morveux. J'arrive. Un bout, deux bouts, trois bouts.
Larguez les petites engraisses.
petits ogres adorés, venez faire un péco à maman. Mes trésors.
Les bruits du monde, par principe actif.
Sur la distinction entre conte et légende, j'entends aussi que les légendes s'inscrivent dans un géographiquement, c'est un peu ce que vous disiez, dans un endroit précis. Je pense, je sais pas, aux légendes arthuriennes par exemple, forêt de Brocéliande, Bretagne ou Grande-Bretagne, enfin voilà. Alors que les contes, même si les noms des personnages, la temporalité peut changer, enfin il y a plein de choses qui peuvent changer d'une culture et d'un endroit à un autre, on retrouve quand même des grands récits un peu partout dans le monde, notamment autour, je sais pas, d'animaux totems symboliques importants pour la création du monde, enfin ce genre de choses. J'entends aussi cette distinction, mais c'est vrai que je me l'étais jamais posé vraiment. Le conte et les légendes sont des choses très différentes. Mais merci d'éclairer un peu ma lanterne. Je sais pas si vous voulez compléter par rapport à ça.
Bah, c'est vrai que par exemple le chaperon rouge, dans le dernier recensement il y avait 130 versions dans le monde. Voilà, il y a en Chine ça s'appelle Lon Popo. Et elles sont trois filles, en fait. Et c'est le loup qui vient, je sais plus, chez elle. En Afrique, en fait, elle a affaire à un crocodile. Voilà. C'est la même matrice de fond. Moi, j'aime bien quand je m'attaque à un récit, j'aime bien aller voir plein de versions différentes de plein de cultures. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de... Ce qui est intéressant, c'est... comment le récit il est articulé, c'est quoi son squelette. Et puis après, et c'est ça qui me permet de faire une réécriture sans m'encombrer de codes culturels, ou alors de m'en jouer. C'est-à-dire, je regarde l'architecture que le récit a en Chine, je regarde en Afrique, je regarde au Canada, par exemple, et je vois qu'est-ce qui reste. C'est quoi l'invariant de tout ?
Le commun.
Le commun. Et c'est ce commun-là qui est le noyau dur du récit. C'est, on va dire, le thème, c'est ce commun-là. Et après, le reste, c'est de la déco. Et la déco, c'est la culture. Et chaque culture porte en elle-même sa propre cohérence. Donc après, à moi de choisir plutôt tel ou tel pour pouvoir réorganiser et faire sonner avec tel ou tel comme je le veux dans les publics, enfin comme je l'imagine. Ça a l'air très... Ça, c'est après coup. Hein. Faut pas croire que je me dis tout ça pendant. Hein. Je me le dis après coup.
Non, mais ça éclaire bien sur comment peut se construire, en tout cas, votre regard sur une de vos créations. En tout cas, sur
ouais.
Quand en partant d'un conte. Ça paraît assez clair, en fait, une fois expliqué comme ça, comment voilà, vous avez gardé l'essence, la quintessence du récit, et puis ensuite on l'habille un peu comme on veut, au gré de en effet des cultures, des influences, des façons. J'ai l'impression d'avoir compris.
Mais en tout cas, ce qui me permet de dire, moi, que je fais pas des versions contemporaines, c'est-à-dire que je dénature jamais une figure de loup ou une figure d'ogre. J'ai pas envie qu'un ogre ça fasse plus peur. Je pense que ça doit foutre une trouille d'enfer.
Et
que
c'est une fonction, d'ailleurs.
Mais bien sûr, si on dénature les fonctions, alors on dénature les pulsions, etc. Et on parle de quoi, en fait ? On parle de nos égos. Et ça ne m'intéresse absolument pas. On est dans une société de l'ego qui est insupportable. Du coup, ce qui m'intéresse plus, c'est de garder ces fonctions-là, mais de les détourer ou de les détourner. Voilà. D'en garder la puissance, mais... Comment on fait avec l'image de l'ogre ? Elle est saturée, cette image. C'est comme le loup, elle est saturée, quoi. Dès qu'on dit le mot, tout le monde a peur avant même qu'on ait fini de dire le mot. Alors c'est plus vraiment la peur du spectacle, c'est une pré-peur. Donc, moi, je travaille sur ça, quoi. Sur, par exemple, voilà, la phrase « Miroir, oh mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Allez sortir ça en spectacle. C'est ingérable. Donc, on est obligé de trouver un autre moyen pour que ça sonne, quoi. Ça a été tellement dit, remâché, on l'a tellement dans l'inconscient, que si on s'appuie là-dessus, ça sonne pas. Ça sonne
puis
plus.
On a le Disney qui nous revient tout de suite en tête. Et du coup, ce qui va se passer sur scène, c'est presque comme si ça n'existait pas.
Voilà. Donc le travail, en fait, il est de savoir à quel endroit, qu'est-ce qui reste comme trace dans l'imaginaire collectif. Et c'est ces traces-là dans la réécriture qui sont interrogées, briller, caustiquer un peu pour faire entendre tout à coup, on garde la même force, mais on la décale en fait. Et le contemporain pour moi, il est là-dedans. Voilà, il est de... Voilà.
On a parlé de votre rapport au conte, là, longuement, parce que au conte, aux légendes, de comment vous vous en servez, mais On a remarqué que beaucoup de... Il y avait un aller-retour entre conteur et comédien, entre le conte et le théâtre. Il y a des différences et en même temps, il y a des points communs. Et d'ailleurs, beaucoup de conteurs se retrouvent au plateau, alors que c'était pas forcément un moyen initialement de conter. Voilà, quel est un petit peu votre regard? Est-ce que c'est une nouvelle façon, ou une nouvelle façon, je sais pas si c'est si nouveau que ça, mais une autre façon de d'amener le conte au grand public, alors qu'on l'a, comme on vient de le dire, dans plein d'images dans notre inconscient, dans nos cultures. On a plein d'histoires, de références, mais est-ce que voilà, pour les conteurs, c'était peut-être un autre moyen de passer du côté peut-être plus comédien remettre le projecteur là-dessus, je sais pas.
C'est hyper c'est pas sympa comme question.
Désolé.
Non, c'est qu'elle a plein de niveaux, cette question. Confondons pas le conte qui est une matière avec le conteur qui est celui qui l'apporte. Voilà. Moi, je travaille à partir de la matière du conte. Mais mon inscription de la parole, elle se joue à la fois l'endroit d'où ça parle chez moi. J'ai profondément quelque chose à voir avec l'oralité en tant qu'interprète. Mon ADN d'interprète est que je suis plus du côté de la narration, parce que mon rapport au langage et à l'image se situe là, que du côté de l'émotion de l'interprète. Voilà. Donc, j'ai juste envie de redire que le conte est une matière, c'est un récit. C'est tout. Et puis que le conteur, il a plein de formes. Moi, j'ai toujours aimé la scène, et mon défi a été de porter ce matériau-là sur la scène, et peu importe le médian, peu importe. Et pour y arriver... Ben, j'ai fini par passer par la danse. Alors, c'est pour vous dire. Je suis passée par l'abstraction de la danse contemporaine. Donc, en fait, je veux dire, voilà. Il n'y a pas de préforme, en fait. Par contre, c'est vrai que ce mouvement-là, des conteurs au plateau, a été amorcé par Yannick Jolin, en fait. J'ai pas fermé l'œil de la nuit en 1993, un spectacle absolument fabuleux. Il a ouvert le champ de l'écriture des seuls en scène plateau nu. Et à partir de là, on a eu un beau champ en fait à défricher. Et je pense que effectivement, maintenant dans le théâtre, il y a aussi ce champ inverse des seuls en scène, mais qui intègre la narration. Voilà, il y a une espèce d'aller-retour. Voilà, très voilà, c'est de trucs figés, quoi. Voilà.
Sur la place de l'oralité, puisque c'est ça dont on parle depuis tout à l'heure, au XXIe siècle, une société, on l'a un peu abordé, saturée par, vous disiez, par l'ego, mais aussi par l'image et l'immédiateté. Tout est ultra rapide, les réseaux sociaux, Internet, enfin voilà, en un clic, on a tout un tas de choses qui nous apparaissent. Et le rapport au temps est... Et c'est peut-être aussi pour ça que les contes ont traversé les âges. C'est un autre questionnement et un autre positionnement par rapport au temps, notamment à l'histoire, à comment on traverse la vie. Ça, c'est le temps humain, mais aussi le temps long sur les siècles et l'histoire humaine. Voilà, quel regard vous avez sur... est-ce que l'oralité, quelque part, se porte bien malgré cette société de l'image et de l'immédiateté?
Je sais pas. Je pense que l'oralité qui n'est pas traversée d'imaginaire n'est que discursive et que c'est que de la tchatche. Et qu'on a besoin vraiment d'imaginaire, au sens non pas d'imagination qui part dans tous les sens et que ça sert à rien, mais on a vraiment profondément besoin de... que nos rêves ou nos vies, elles soient traversées... de quelque chose qui nous... On a besoin d'être nourri, en fait. Si l'oralité, elle n'est que des mots, non. Ouais, je sais pas.
Il faut l'imaginaire, la force des contes dont on a parlé tout à l'heure, de ce récit qui nous renvoie à des choses, et notamment cette mue du passage de l'enfant à l'adulte. Enfin, c'est chargé vous l'avez déjà dit tout à l'heure, d'une symbolique, c'est ça qui est la matière essentielle, notamment des grands récits.
Ouais. Ça, et puis c'est la poésie aussi. Alors on en lit très peu, etc., mais la poésie, elle nous ramène en fait à ces imaginaires, les romans, la littérature en général, et puis la peinture, etc., mais on a besoin en fait de... On a besoin que nos cerveaux, qui sont tout le temps en action avec toutes les informations qu'ils ont, à un moment puissent être vraiment reliés à notre intériorité, je crois. Voilà. C'est à ça que sert l'art, en fait. En tout cas, je crois que l'art, il tend à nous amener à cet endroit-là, globalement, quoi.
Dernière chose, Annabelle, pour très concrètement revenir à cette soirée, ce week-end, au Tangram. On le rappelle, deux spectacles seront joués le samedi, un à 17h et l'autre à 20h. Le dernier de cette trilogie héroïque, Le Roi des Rats, dimanche matin. La possibilité pour le public et notamment les familles et les plus jeunes de camper dans le cube le samedi soir à l'issue du deuxième spectacle, avec une veillée. On ne va pas forcément dévoiler parce que j'ai cru comprendre qu'il y aurait une surprise, mais entre la trilogie et puis tout cet accompagnement, tout ce qui est mis en place pour que le public puisse rester sur le site, enfin en tout cas dans l'espace du théâtre, et j'avais envie de vous demander qu'est-ce que ça permet, mais en fait la question est dans la réponse déjà, puisque voilà, ça permet au public, aux spectateurs, petits ou plus grands, de rester dans la magie du moment et du week-end. Il n'y a pas de question, mais je sais pas, votre regard.
Ça, c'est un projet qu'on a eu avec Christian Mousseau Fernandez, en fait, Et c'est un projet qu'on est très heureux de pouvoir réaliser, de pouvoir faire dormir des gens dans l'endroit du théâtre. Et alors, c'est pas des gens, c'est des familles avec des enfants. Sachant que déjà, pour des enfants, de venir au spectacle le soir, des enfants ou des ados, il y a quand même quelque chose d'assez subversif, quoi. Parce que le soir, c'est quand même notamment...
On se couche tôt.
Voilà. Et puis, la nuit, c'est pas fait pour, à part les grands ados, mais la nuit, a priori, n'est pas fait pour qu'on sorte. Et là, c'est ce qu'on leur propose. C'est de rentrer dans le théâtre pour 17h et d'en sortir le lendemain à midi, quoi. Et l'idée était... L'idée, en fait, c'est de... C'est-à-dire qu'en 18h, si on dit qu'on rentre à 17h puis on sort à midi, du théâtre, en fait, il y a quasi 3h15 de spectacle. Et le reste, c'est effectivement une surprise. Et puis la nuit. Ça veut dire que le temps quotidien, notre fameux temps quotidien là, qu'on s'épuise tous quand on est parents, c'est le temps quotidien qui peut être sympa, mais qui des fois est un peu lourd, et ben ça, on le laisse de côté pour vivre une vraie expérience ensemble. Autour d'une écriture qui dure depuis 9-10 ans, qui est la trilogie. Et ça, c'est une expérience que Christian, là, quand je dis tout à l'heure, je disais que j'essayais de renifler les ADN. Christian Mousseau Fernandez est un fervent défenseur en tout cas un inventeur aussi de formes pour la jeunesse et les familles. Il a toujours envie d'inventer des nouvelles modes de relation au public. Et clairement, c'est quelque chose qu'on a imaginé ensemble. Et il en est aussi à l'initiative de cette trilogie, cette forme-là. Très clairement, c'est lui qui l'apporte, et je l'en remercie beaucoup. Voilà, dans l'idée de... Moi, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est qu'il y a un peu quelque chose de subversif. Et il me semble que les souvenirs d'enfants qu'on peut porter un peu adultes, ce qui nous reste aussi, c'est quand on a un tout petit peu transgressé quelque chose. Voilà, dormir ensemble dans le cube et tout ça, je pense que ça va être assez épique avec les petits déj et tout le lendemain. Enfin, j'ai idée que ça peut être un très beau moment de graver, à grandir avec après. Voilà.
« 26 juin 1284. » C'était au temps des anciens rois, des grandes guerres,
et des pestes. En ces époques troublées où d'étranges pouvoirs se manifestent, murmure d'une histoire ancienne par les siècles dispersés, une flûte de roseaux de quelques trous percés. Quand des lèvres s'y posent, s'échappe une mélodie au pouvoir mystérieux de toucher les recoins de l'âme enfouie. En ville d'Amelin, elle enchanta les enfants et les rats. Puis sa trace se perdit, elle devint « Il était une fois ». Murmure d'une histoire ancienne par les siècles dispersés, une flûte de roseaux de quelques trous percés. Dans le sous-sol d'une grande ville, elle sommeille, intacte, endormie, mais pas morte. Elle attend son dernier acte.
Les bruits du monde, par principe actif.
C'était très rigolo quand même, parce que même pour un one-man show, c'est quand même assez bien fait. Il y a de l'anglais, il y a du français, et puis c'est très rigolo, voilà. C'était super parce que elle est toute seule sur scène, mais enfin elle assure sur scène. Enfin, je sais pas trop comment dire.
C'est un spectacle pour enfants, mais les adultes, ils ont des blagues à eux. Du coup, tout le monde peut en rire, même si c'est adapté d'un conte. Et justement, ça donne une nouvelle version. Et ça donne un peu de nouveauté. C'était cool.
Moi, je trouvais que c'était super. Et surtout, la dame, elle a vraiment du courage pour faire ça pendant une heure. Et elle était toute seule. Et puis, franchement, elle mime bien et tout. Puis, comme elle avait aucun objet, franchement, elle a vraiment du courage. Elle est forte. Hein. Et moi, j'ai aimé.
Alors, moi, je pensais que, franchement, c'était très bien. Mais la dame, elle a eu beaucoup, beaucoup de courage de faire le spectacle seule. Parce que nous, en fait, ce qui fait notre force, c'est effectivement qu'on soit tous en groupe. On soutient les uns les autres. Ah, où t'as mis mon accessoire? Il est là. Ouais, super. Et donc, franchement, elle est très courageuse de l'avoir fait seule.
Ouais. Voilà. Moi je trouvais ça super sympa parce que elle était toute seule à faire plusieurs rôles et puis elle savait changer de voix et tout et puis elle disait des trucs, ça modernisait un peu le spectacle et du coup moi j'ai bien aimé. Ouais.
C'est vrai que ça change de la version de Blanche-Neige qu'on connaît quoi. C'est quand même,
oui, parce que comme ça change et puis qu'elle met des trucs comme le Super U ou les trucs comme ça, je trouve du coup c'est drôle.
Moi je trouvais ça sympa avec les lumières et puis c'est vrai que c'était drôle donc moi j'ai bien aimé.
C'était bien, c'était cool et puis on a bien rigolé et puis j'ai bien aimé le jeu de lumière et tout ça, c'était cool.
J'ai adoré.
Ouais.
Parce que je trouve ça fort de jouer, de jouer toute seule sur scène et de pouvoir changer de rôle en une fraction de seconde. Donc je trouvais ça très très fort.
Et toi?
Moi j'ai trouvé ça pas mal, vraiment. Surtout être toute seule sur scène, à jouer avec les rôles comme ça. C'est vraiment quelque chose de, comme elle dit, fort. Et vraiment bravo, hein. J'ai beaucoup aimé. Ça me fait beaucoup rire. Même pour un adolescent, ça fait rire. Et je me suis retrouvée comme j'étais en enfance, quoi.
C'est pour toutes les générations. Tu peux avoir des blagues pour les enfants, donc c'est Mimi, son jeu. De changer d'un coup, de partir en Blanche-Neige, puis d'un coup en sept nains. De passer d'un coup à la reine, au miroir. Et c'est Mimi qui font plus rire les enfants, ou même les adultes. Et des blagues qui vont être un peu plus réfléchies, qui vont être plus pour les ados, enfants. Donc c'est vraiment pour toute génération. C'est ça que j'ai trouvé ça bien.
C'est vraiment pas mal. Vraiment très très bien.
C'est hyper bien parce que c'est hyper courageux en fait d'être toute seule sur scène, jouer plusieurs rôles sans aucun décor et faire participer le public surtout. Donc c'est une preuve de courage.
C'est super parce que il y a pas beaucoup de spectacles où on fait participer le public. Et là, on fait quand même assez bien participer le public.
Prêtez de voir la suite.
Cette nuit-là, aucun enfant de la ville ne réussit à trouver le sommeil. La flûte cassée, la rue sans tambour, nettoyée. Grand-mère courant d'air, envolée. Joss Museau disparu. Arrête de pleurer maintenant, Millie. Mon père, il dit que c'est la loi. C'est comme ça.
puis ce gamin étrange, ben ça pouvait plus durer. Joss et Muso, il les a renvoyés de la ville, c'est pour le bien de tout le monde. Renvoyés? Tu appelles ça renvoyer, Harold? Fiche-moi la paix! Emily se réfugie dans sa chambre, assise sur son lit. Les images lui reviennent. Joss, seul contre les rats. Joss, joueur de flûte. Alors c'était ça. Utiliser le pouvoir de cette flûte pour libérer une ville et réchauffer le cœur d'enfants. Ça, c'était interdit. Mais construire une ville monstrueuse, étouffante et pressée, ça non. Expulser Joss et Muso, ça non plus. Ce n'était pas interdit de n'avoir tiré aucune leçon de l'invasion des rats. Dans les mains de la fillette, les deux morceaux de flûte se recollèrent comme par magie. La flûte venait de trouver son nouveau maître. Le son qui en sortit, aucun adulte de la ville ne put l'entendre. Mais tous les enfants sortirent dans la nuit. Résine, c'est nous, Billy. La bande à Joe. Billy, il est où, Harold? Ouais, il est encore chez papa, hein? Ils n'avaient pas le droit de bannir Joss de la ville. Ils n'avaient pas le droit parce qu'il a fait. On peut pas laisser faire ça. On y va. Allez. Boulevard de l'industrie. Les Billy Boys. On dirait que les adultes de cette ville, ils comprendront jamais rien ou quoi. Ce qu'ils ont fait à Joss, ils pourraient le faire à n'importe lequel d'entre nous. Sortait de partout maintenant, de toutes les maisons, dès qu'on n'avait jamais vu. Ils étaient tous là, pieds nus, en pyjama, armés de doudou et de tétines. Captain Billy, Captain Billy, il y a les petits frères et les petites sœurs.
Radio Republik Indonesia dengan aneka berita dibacakan oleh Maulana Aksan.
Écoute, ce sont les bruits du monde. Une heure de musique des quatre coins du monde. Écoute les bruits du monde. Du monde par principe actif. Par principe.